Chapitre 6. Ces jours, somme toute stériles, me permirent tout de même de faire une rencontre singulière, celle d'une jeune femme qui partageait ma vie, sans le savoir, depuis près d'un an. C'était une de mes voisines. Elle habitait au 6e étage, dans l'autre corps de bâtiment de l'immeuble. La cour mettait entre nous un vide et une distance d'une vingtaine de mètres, mais le fait que j'occupais un étage supérieur au sien me procurait une vue plongeante sur son intérieur. Un store, constamment bloqué à mi-hauteur, dévoilait sa chambre. Quant à celui de sa cuisine attenante, il n'était jamais baissé. Je ne distinguais que ces deux pièces. La salle de bain devait être située à l'opposé. Elle n'avait jamais paru se préoccuper de ma présence, ni de celle des autres habitants de l'immeuble qui pouvaient apercevoir, comme moi, ses faits et gestes. Elle laissait allumer les lumières de sa chambre et de sa cuisine. Elle ne pouvait vivre ni même dormir, semblait-il, dans le noir. De la fenêtre de mon bureau, je voyais 7 appartements, dont le sien. Avec l'éloignement, l'ensemble ressemblait à un assemblage de cases collées et superposées d'une maquette aux éléments écorchés d'une maison de poupées dans lesquelles des créatures se livraient à des activités répétitives, rarement frénétiques. J'avais installé ma table de travail, un cadeau de Gênes, une table de couturier, pour un metteur en scène il n'y a pas mieux, vous faites le même métier mais sans le savoir, devant la fenêtre. Ce qui me permettait, tout en écrivant et en dessinant, de regarder le spectacle de ces vies qui me renvoyaient à la petitesse et à la monotonie de la mienne. Davantage qu'un plaisir de voyeur, cette fenêtre sur cour me fascinait par la miniaturisation des existences qu'elle exhibait. Les êtres humains prenaient subitement la taille de souris de laboratoire. Les abreuvoirs, les roues, les litières étaient remplacés par des lavabos, des éviers, des réfrigérateurs, des téléviseurs, des ordinateurs, des lits et des canapés, mais au fond, la différence était mince. Le vivant à l'œuvre témoignait d'un nombre d'actions extrêmement réduit. Se nourrir, se divertir, dormir, qui suffisait à le définir et à le rattacher au vaste ensemble constitué, regroupé sous le nom de règne animal. J'avais fini par incorporer ces vies à la mienne, par conjuguer leur emploi du temps au mien, recomposer en quelque sorte une famille dont aucun des membres ne se connaissait, mais qui partageait, sans en être totalement conscient, des moments communs. Parfois, je ressentais le besoin de rêver leur vie en dehors de ces boxes dans lesquelles leur intimité se relâchait. Me manquait l'aspect social et extérieur de leur existence. C'est ainsi que j'avais imaginé pour la jeune femme du 6e, la dernière arrivée dans cette mosaïque verticale, à laquelle je ne donnais pas plus de 28 ans, une profession futile, vendeuse dans un magasin de vêtements, esthéticienne, rédactrice dans une agence de publicité, commerciale. Grande, brune, avec de longs cheveux qu'elle lavait 3 fois par semaine, elle quittait immédiatement ses vêtements en les jetant par terre dès qu'elle entrait dans l'appartement vers 20h chaque jour. Elle enfilait un short de pyjama et un débardeur très échancré dans lesquels plus tard elle s'endormirait. Elle dînait de façon frugale, un yaourt, quelques fruits, parfois une salade. Le matin, elle prenait en revanche un petit déjeuner copieux, thé, œufs, céréales, jus d'orange, toast, fromage. Elle ne rentrait jamais chez elle pour le déjeuner. Après son dîner, elle s'allongeait sur son lit, au-dessus de sa couette, prenait son ordinateur portable sur ses genoux et restait des heures à regarder l'écran qui éclairait son visage d'une lueur lactescente, un visage dont je ne saisissais en raison de la distance que l'esquisse. Le jeudi soir, elle sortait vers 22h, après avoir pendant un long moment essayé différentes tenues, toutes habillées et élégantes, autant que je pouvais en juger. Sa chambre se transformait soudain en une cabine de grand magasin. Robe, jupe, bustier, pantalon, chemisier, passer de sa peau au sol, du lit à sa peau, de son armoire à sa chaise, revenant par moments sur sa peau pour la quitter de nouveau. Le fait que tout au long de ses essayages, elle déambula à demi-nue, sans soutien-gorge, revêtue d'une mince culotte noire ayant la forme d'un bandeau de dentelle qui marquait de façon horizontale ses hanches, masquait son pubis derrière un triangle gazeux et disparaissait en un mince filet sombre sur la partie supérieure de ses fesses, comme un ruisseau d'encre tarie, ne participait en rien au plaisir que j'avais à la regarder faire. « Tu ne me feras pas avaler ça, » avait dit Eugène. Et Florence, avec laquelle je dîne une fois par mois et continue à faire l'amour selon la même fréquence, avant ses dîners, avait d'un regard exprimé la même chose que mon ami. Et pourtant, que l'on me croit ou non, tous deux se trompaient. La quasi-nudité de ma voisine, même si elle était agréable à observer, n'entrait que pour une part négligeable dans mon plaisir. Ce qui me fascinait en elle, c'était l'indécision de sa nature. Elle me semblait être une créature qui n'a pas encore choisi son statut, ou plutôt pour laquelle rien n'a été choisi. Appartenir à la vie, ou bien s'intégrer dans la structure d'un roman, d'un film, d'une pièce de théâtre, d'une nouvelle. Cela, sans doute, était dû au fait que son existence, plus encore que celle des autres hommes et femmes que je voyais vivre à quelques dizaines de mètres de moi, de l'autre côté du vide, était d'une invariable régularité, que j'interprétais comme le résultat d'une attente, d'une indécision à devenir une construction de l'esprit ou un être réel. La soirée du jeudi, durant laquelle ma voisine cherchait une tenue pour sortir, hésitant sans cesse, comme si elle ne pouvait seule se décider à endosser un rôle, m'apparaissait comme la confirmation que le hasard avait placé face à moi ce que je n'avais jamais eu jusque-là l'occasion d'observer, un personnage. Un personnage encore vague, mal défini, mouvant, occupé à naître dans l'esprit d'un créateur. La vraie question que je me posais était la suivante. Devais-je laisser faire les choses et prendre ma jeune voisine comme future figure d'un de mes films, laissant mon imagination la modeler et la remplir, habiller son apparence simple, charger sa personnalité, pour l'instant relativement creuse et neutre, d'une complexité dramatique, ou bien au contraire, fallait-il la faire aller peu à peu dans le domaine de la vie réelle, la mienne, celle de mon voisinage, au gré par exemple d'une rencontre que je pourrais provoquer au bas de l'immeuble ou dans le local à poubelle, ou bien encore lors d'une réunion de locataires. Mon enquête auprès du corps médical mit brutalement fin à cette hésitation que je faisais durer, avec un certain plaisir depuis des mois, lorsque, attendant d'être reçu par un médecin auprès duquel Eugène, par le biais de sa fille Ninon, qui avait été une de ses condisciples, m'avait obtenu un rendez-vous, je patientais, assis dans le couloir d'une unité de recherche du CNRS située en banlieue sud. Je vis sortir du bureau une jeune femme que je ne reconnus pas immédiatement, mais dont les traits et surtout les mouvements amples, souples, évoquèrent pour moi un air de déjà-vu. Je n'eus pas le temps de préciser mon impression, car comme j'étais le seul à attendre en cet endroit, elle me regarda sans hésitation et, me saluant par mon nom, m'invita à entrer. « Vous m'excuserez de vous recevoir dans un lieu aussi exigu. Cela vous donnera malheureusement une idée de la façon dont notre pays considère aujourd'hui la recherche et les chercheurs. » Elle m'indiqua une chaise sur laquelle je pris place avec difficulté, tant il est vrai que la pièce était de la dimension d'un placard à balai. Les murs disparaissaient entièrement sous des rayonnages emplis de dossiers et de livres et aucune fenêtre ne venait aérer cet entassement. J'eus le sentiment d'avoir été soudain placé entre les pages d'un gros volume, comme si on avait voulu m'emprisonner dans une cellule de papier, de phrases, de mots et d'encre. Je peinais à trouver une position, jambes croisées, jambes décroisées, qui me permit de ne pas gêner mon hôtesse. Nous étions de part et d'autre de sa table de travail, minces comme un pupitre d'écolier, et nos visages étaient si proches que je pus distinguer dans ses yeux, d'un brun profond, des paillettes rousses qui se dispersaient comme les poussières de reflets colorés qui nous charment quand nous perdons notre regard d'enfant dans les infinis miroirs d'un tube kaléidoscopique. Je sentis son parfum aussi, celui de sa peau, celui de son haleine. Elle venait sans doute de manger une orange. J'ai songé à l'Italie, à un vieil oranger couvert de fruits que j'avais photographié il y a quelques années non loin de Ravello, sur la côte amalfitaine. Il était enraciné en bord de route, sur une pente abrupte, et la mer, 200 mètres plus bas, semblait vouloir l'attirer dans son vertige de cobalt.